Bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, direction l'épopée du deux roues. Un événement unique qui se tient à Château-Gontier sur Mayenne, qui a commencé le 14 janvier et qui se terminera dimanche 1er mars. L'épopée du deux-roues, c'est plus de 200 ans d'histoire du vélo et de la moto présentés dans des décors d'époque immersifs et spectaculaires. Plus de 500 véhicules exposés, une collection inédite qui a pour but de retracer l'histoire fascinante du deux-roues de ses débuts à 1950. Et juste après notre premier morceau de musique, nous vous proposons de découvrir les acteurs de cette fantastique exposition avec en prime une visite guidée avec le metteur en scène en personne, Jean-Luc Gagnard. Restez avec nous et on se retrouve juste après le premier morceau de musique. A tout de suite.
Guitar picking, I could barely hear. Got moved on by a couple of coppers. Watched the rainfall on the river weir. I woke up hungry waiting for that crazy girl. She knows her lover and the game she plays. We were meant to jump the train by daybreak. Said she'd be back in a couple of days. Jackie, where you been? 'Cause I've been waiting. Jackie, where you been? I was still waiting. If I could make it down to Leeds University, there's a student used to live next door. Climb through his window and read his book on Socrates. Maybe find myself sleep on his floor. All the while I'd be thinking about my future, hallucinating that my luck would change. That she would show up with a suitcase full of lucre and wrap around me like, honey, keep the change. Jackie, where you been? 'Cause I've been waiting. Jackie, where you been? I'm still waiting. Jackie, where you been? The way I got to join the circus with Honest John and a couple of friends. Like Pinocchio, I got to see the bad boy show. I wonder where the story ends. We'll be right back.
L'épopée du Doroux, c'est à Château-Gontier en Mayenne. Et je suis avec metteur en scène Jean-Luc Guénière. Jean-Luc, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà. Alors, l'épopée du Doroux, c'est 400 véhicules exposés. Hein. Voilà. Là, on est juste à l'entrée de l'exposition. On trouve les vélos.
Tout à fait. On démarre avec les Drésiennes qui sont environ de 1820. C'est là que le vélo va commencer. Une poutre sur laquelle on est assis et qu'on entraîne en marchant. Après, il faudra attendre 1861 pour que Pierre et Ernest Michaud créent la pédale sur un vélocipède, sur la roue avant. Ils vont fixer des leviers et des manivelles et on va pouvoir pédaler assis sur le vélo avec la roue avant. Comme le vélo, on veut toujours aller plus vite. Alors donc, on va augmenter la taille de la roue avant et on aura des grands billes. Comme la roue arrière ne sert qu'à maintenir le vélo debout, on va les faire petites. On n'a pas besoin de les faire très grandes. Donc voilà, les grands billes. On en a des magnifiques ici, très grands. Après, la chaîne va apparaître. Le vélo va redescendre de hauteur, va redevenir un peu plus contemporain comme ceux qu'on a, mais il va rester quand même pendant une dizaine d'années incliné. C'était très joli d'ailleurs cette ligne de vélo incliné. On aura des vélos cadre-poutre, des vélos à pivot, enfin toutes sortes de choses quoi. C'est très 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 beau cette période.
On a quelque chose de très original, le tricycle Rudge avec une grosse roue sur le côté.
Alors c'est un tricycle, ça a été fait à l'époque des grands billes. Tout le monde ne voulait pas aller se percher sur un vélo un peu dangereux sur les bords. Donc on a acheté un tricycle. Il y a eu plein de constructeurs en Angleterre, beaucoup. Face de nous, on a un Rudge Coventry qui est un très beau vélo avec deux roues directionnelles et la grande roue qui sert, il y a un frein dessus, enfin voilà. C'était beaucoup plus stable qu'un grand bille, on est beaucoup moins haut. Voilà, les gens allaient dans les châteaux faire un peu d'exhibition avec des beaux vélos comme ça.
D'accord.
Beau tricycle Clément, oui, qui est environ de 1882 et belle pièce, très belle pièce, authentique. Clément était un grand constructeur de vélos avant de devenir constructeur de motos.
De motos, oui.
Oui.
Voilà, très bien. Dodio Bouton, c'est également, hein, avant de fabriquer des motos, ben, tous ces constructeurs ont fabriqué des vélos.
Des vélos. Alors là, on a un stand sympa avec un tricycle de Dion Bouton qui date de 1899, une moto de Dion qui date de 1902, et puis un quadricycle aussi. Il y a plein d'engins sympas. On est plongé dans cette fin du 19e siècle. J'ai refait des mannequins aussi, un marquis de Dion avec sa comtesse. Enfin voilà, on a recréé un peu l'univers. Voilà.
Et on commence à voir apparaître toujours, c'est une forme de tricycle, mais cette fois-ci motorisé avec,
oui.
Voilà, avec oui, un quadricycle de Dion Bouton là.
Voilà, c'est ça.
Le marquis, quatre roues, en fait.
Le marquis, oui, de Dion était un partisan du moteur à explosion. Il va défendre à fond alors qu'on est encore dans l'esprit de la vapeur. Donc il y aura un petit combat qui va durer une dizaine d'années entre les partisans de la vapeur et les partisans du moteur à explosion.
Très bien. Voilà, on continue encore cette exposition de vélos. Alors que je rappelle, hein, qui est quand on arrive dans ce hall là, c'est la première séquence, hein, qu'on peut voir les vélos. Hein.
Alors là, on a des vélos à système. Alors ça veut dire des vélos à suspension, des vélos à cardan, des vélos où on pédale en avant, en arrière, enfin toutes sortes de choses. Hein, tout a existé. Des vélos comme le Terreau là, qui on appelle l'évocyclette. Donc il y a 10 vitesses, des bras de levier partout.
Alors, apparemment le mécanisme est compliqué. Hein.
Ouais. On pédale à balancier. C'est un pédalage à balancier. Donc, c'est une curiosité.
On fait aller les pédales d'avant en arrière, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui. C'est un balancier.
Il n'y a pas de rotation.
On a des vélos. Il y a un vélo Indian avec un amortisseur de couple sur les pédales qui permet que quand on a besoin d'effort, la pédale va s'allonger. On a un peu toutes sortes de trucs.
Et là, on commence à rentrer dans le vélo qu'on connaît maintenant actuellement. Hein.
Oui, parce oui, oui. On est en plein dedans.
La forme actuelle. Hein.
On est en 1906, là.
Oui, donc la chaîne de pédales. Hein,
voilà.
Il manque encore peut-être les freins aussi, le freinage qui n'est pas adapté.
C'est un frein rétro-pédalage.
Voilà, alors ici, tu as fait un beau petit stand, justement, petit stand, parce que c'est pour les enfants, en fait.
Oui, c'est une école. On a recréé une école. Avec l'école des filles, l'école des garçons, avec plein de mannequins qui sont gays le plus beau, et puis des petits jouets en rapport avec le vélo. Donc on a des triporteurs, on a des chevaux mécaniques, on a des petits tricycles, des cyclorameurs, enfin toutes sortes de jouets que les gens ont connu à une certaine époque.
Et puis la peinture aussi, hein, avec le,
les trompe-l'œil.
C'est la cour d'école. Hein.
Oui, donc il y a des très beaux trompe-l'œil qu'on a réalisés il y a de nombreuses années déjà.
Oui.
Et puis depuis peu, j'en ai refait d'autres avec un ami. C'est bien de mettre de la vie, que ça soit beau, de la couleur. Il faut que ça soit une expo vraiment vivante.
Et ici, donc, les vélos du Tour de France.
Le Tour de France, oui. Voilà. Alors, on a mis une voiture du Tour de France avec plein de publicités dessus d'époque. C'est une C4 Citroën. Il y a aussi plein de vélos de champions. On a le vélo de Robic du Tour de France 1947. Enfin, voilà, tout un tas de choses. C'est très, très beau parce qu'il y a de la couleur, des affiches d'époque, plein d'objets d'époque. Tout ça, c'est vraiment sympa.
Alors, quand on regarde un petit peu le freinage, il y a encore des patins sur ces vélos de course.
Oui, les premiers avaient des freins à cuillère, à tampon, tu vois là,
oui.
À tampon, et puis après on va avoir des freins à patins. Il y a différents patins.
Ah oui, à tampon, donc ça freine sur le pneu. En fait.
Oui, sur le pneu.
Voilà. Eh bien, écoute, on va passer à l'expo suivante.
On va continuer.
Voilà.
On va arriver dans les vélos de course. Les vélos de course qu'on a depuis la fin du 19e siècle, hein, les plus vieux qu'on a là, c'est 1890 à peu près, et puis après, on va aller sur 1900, 1910, un peu toute l'évolution. On a même un grand bit de course qui est magnifique.
Ah oui, on arrivait à faire de la compétition avec ça ?
Oui, bah, ils en faisaient à l'époque. Ah
oui. Hein. Je me suis toujours demandé comment on faisait pour monter...
Des courses de grand bit.
Pour monter sur ce
Ah oui, oui. Ah bah, vélo, en fait, tu tiens ton vélo, tu mets un pied sur le marchepied derrière.
Ah oui, il y a un
marchepied.
Oui.
Puis avec l'autre jambe, tu prends de l'élan. Et puis ensuite...
Et tu essaies de file. Grimper sur la selle qui est...
Voilà.
Ça fait au moins 1m60, hein, la hauteur de celle-là.
Ah bah, il y a des fois, il y en a des grands. Hein.
Oui.
Bah, le vélo allait avec la grandeur du personnage.
Hein. Bah, oui, c'est ça, oui.
C'est tout un stand avec des vélos en aluminium. Dans les années 40, on va fabriquer des vélos en alu. C'est magnifique, surtout quand ils sont entretenus et polis. On a un collectionneur de vélos aluminium ici. Donc, je lui ai dit, bah, fais donc un stand avec ça, parce que c'est vraiment trop beau. Voilà, c'est magnifique, moi j'aime bien.
Il y a une mode des vélos aluminium.
Oui, il y a eu la grande mode. C'est pendant la guerre, parti comme ça, hein, des vélos avec des beaux dessins, magnifiques.
Oui.
Il y a eu les vélos Caminade là, qui étaient d'une grande beauté, tout ça, c'était magnifique.
Bonjour, les qui ont quitté les vélos et on arrive dans l'exposition des motos. Enfin, avant, on va parler de la tranchée à casemate.
Ah oui, alors donc ça représente un fort avec un départ de tranchée et une sortie de tranchée. On est vraiment dans une ambiance de guerre 14. Il y a plein de... On a un taxi de la Marne, on a des motos, sidecar, vélo du capitaine Gérard, plein de mannequins habillés d'époque, de 14, hein, colonel, enfin, un peu tout ce qu'on pouvait voir à l'époque. On a créé ce fort avec des bois, des tôles, comme ils faisaient à l'époque. Dedans, il y a des mannequins aussi,
oui.
Qu'on a éclairés.
Oui.
Et ce qui est magnifique, la cerise sur le gâteau. On a deux avions de la guerre 14 juste au-dessus.
Juste au-dessus, hein, avec ça fait une poursuite un peu. Hein,
ça représente une bataille aérienne.
Voilà.
Et ça, franchement, moi, je me régale.
Avec l'avion du Baron Rouge.
Le Baron Rouge, ouais.
C'était un pilote exceptionnel, un pilote allemand, hein, qui a abattu beaucoup d'avions
français. Il a abattu beaucoup d'avions de chez nous,
c'est
hein,
pour ça qu'il
est
dégonflé, il avait peint son avion en rouge, pour faire peur aux autres.
Oui, oui,
c'est ça, hein,
tout à fait.
Le but.
Quand il voyait arriver, il disait, oh là.
Oui, il ne valait mieux pas se frotter à lui.
Oh là là.
Voilà, voilà, on continue l'expo. Voilà,
alors on a aussi une ambulance avec un blessé dessus.
Avec un grand blessé dessus, oui.
Oui, voilà. Et puis on continue les mannequins. Après, on va voir toute une gamme de véhicules qui ont été fabriqués par Monet Goyon. Après la guerre 14, pour les mutilés de guerre. Donc le vélo Siemann va sortir en 1917, voyant le nombre de gars qui revenaient avec des jambes en moins.
Ah oui.
Joseph Monet et Adrien Goyon vont donc décider de fabriquer des véhicules, et ce qui va rendre service à tous ces gens-là dans la période de l'après-guerre. On a des vélos, ça s'appelle des vélos auto, automouche.
Généralement, c'est du 3 roues avec éventuellement
toutes sortes d'engins.
Un petit moteur adapté. Voilà.
Et là, on va arriver chez Monet Goyon. Monet Goyon, donc, qui va pour faire fortune, mais presque, avec les trucs de mutilés de guerre.
Oui. Le vélo Siemann aussi.
Le vélo Siemann, oui. Un engin curieux. Alors, au départ, il va sortir sans le moteur.
Oui.
En 17, il va sortir, on pédale avec un pédalier, avec les mains.
Avec les mains.
Parce que le gars qui n'a plus qu'une jambe, il ne peut pas pédaler normalement.
Oui.
Ensuite, après la guerre 14, dans les années 20, on va commencer à fabriquer des moteurs adaptable sur le vélo Siemens qui va lui permettre une... il roulera un peu plus vite, il sera déjà... parce que pédaler avec les mains, ça n'allait pas vite.
C'est un moteur, c'est une monoroue hein, avec un moteur qui est,
ouais,
qui est fixé dessus.
C'est un curieux engin. Hein.
Ouais. On continue cette exposition, donc Monet-Goyon 1924.
Oui, on a les premières Monet-Goyon sportives de l'époque, ouais. Des motos à courroies. La Monet-Goyon Brookland qui à l'époque va battre des records innombrables, hein. C'est une excellente moto qu'on atteignait à peu près 135 km/h avec une 175 cm3,
ce qui est pas mal.
Deux temps. C'est un moteur très spécial, très bien conçu, qui prend beaucoup de tours, machine révolutionnaire. Après on arrive dans la gamme des 4 temps. Monet-Goyon va faire des belles motos 350 et 500 cm3 avec des moteurs semi-culbutés, culbutés, le Franconi va être le premier moteur mag suisse culbuté qui sera adapté sur les Monet-Goyon. Et ensuite, on aura des culbutés 350, 500. On était à une époque en France, on n'avait pas beaucoup plus que 500. C'était la moyenne, grosse cylindrée.
La grosse cylindrée. On termine avec une Escoffier.
Hein. La 1000 Colère Escoffier, ouais. C'est le joyau de toutes les motos qu'on a.
Celle-là, elle est très jolie. Hein,
belle, oui, oui, oui. Mais... Elle est recordman de vitesse pendant 15 ans. Elle a été utilisée par les plus grands pilote. Oui, oui, c'est une perle rare.
C'est un moteur en V.
Un V-twin, un moteur arbre-cam en tête, un engin diabolique qui atteignait 200 km/h qui va rester 15 ans recordman de vitesse.
Get your name.
on est toujours chez Monégoyon. Monégoyon va acheter la marque Coleres-Coffier en 1929, qui est une marque mythique. Ils ont fait que des motos de course, que des motos incroyables. Il y a une magnifique mandoline avec sidecar, un très beau sidecar en aluminium de course. On a un engin qui est arrivé d'un copain là, du Midi, de Valréas, qui m'a ramené quelques motos pour l'exposition. Et donc, on a un Monégoyon tricar. Je crois qu'on n'en connaît pas d'autres en France. Je crois que c'est le seul. C'est comme un sidecar qui est devant la moto.
C'est devant la moto.
Ouais. Alors ça, c'est une belle pièce. J'ai peut-être de quoi en fabriquer un parce que j'ai un avant-train de ça.
Ouais.
Et puis j'ai une moto. Après, il y a tout un travail de...
C'est un moteur deux temps ?
C'est un deux temps, 250 cm3, Villiers. Ouais. Là derrière, on a une automouche à deux places. Un magnifique sidecar avec une Monégoyon 350 cm3.
Oui.
Elle est à neuf d'origine, jamais repeinte. Elle est trop belle. Et ça, c'est une moto qu'on l'appelait dangereuse parce qu'elle roulait à près de 100 km/h. Alors à l'époque, avec les routes qu'il y avait et tout,
oui.
Eh ben...
Oui, en plus, ça s'arrêtait avec le sidecar.
Ben oui.
Ça devait pas être évident.
C'était des freins pouligeants.
Oui.
C'était une aventure. Alors là, on a des Monégoyon. On va rentrer dans les modèles des années 30 avec des réservoirs en sel. On va retrouver toujours le fameux moteur MAG qui accompagne les motos. On a là-bas une très jolie petite Monégoyon 175, genre Brookland. C'est les motos qui tournaient dans le mur de la mort, qui faisaient des exhibitions à l'époque. Oh. Elle est très belle et toute dans son jus, cachet terrible. On a une belle 500 à moteur MAG là, qui est dans un jus terrible aussi, une moto de course amateur qui date de 1929 à peu près. Et elle est belle parce qu'elle authentique, elle est dans son jus, c'est magnifique. On a une 350 ici, très accessoirisée. Alors un jour, je vois une annonce, vend Monégoyon, région parisienne, enfin voilà. J'appelle le gars. Cette moto était en plein Paris. Le monsieur était très âgé, il était décédé, je crois. Donc c'est sa famille qui la vendait. C'était un peu la maison qui avait été, recouverte par la ville. On était dans un autre monde, il y avait encore plein d'arbres partout, qui avaient poussé partout. La moto était dans un cabanon, sous des tas de bazar. Et le monsieur l'avait bourré d'huile avant de la camoufler. Et ça, c'était merveilleux, parce que ça a permis de la protéger. J'ai sorti une peinture magnifique de là-dessous. Il a fallu toute la décaper, enfin c'était un gros chantier. Mais j'ai un très beau résultat, très belle machine. Ici, on a une Monégoyon 350 bloc moteur. Alors ça, c'est une moto qui ne ressemblait pas aux autres. On ne peut pas dire que c'était un chef-d'œuvre, une petite moto simple, sans doute économique, pas très rapide, elle ne dépassait pas 100 km/h pour une 350. Mais elle a le mérite d'exister, celle-ci est très belle. Mais par rapport à d'autres, ce n'était pas le modèle à acheter pour moi. On a une très belle 500 monnaie là, magnifique. Alors, on a deux beaux modèles là, à suspension arrière. On arrive à la fin des années 30. Monégoyon va faire des moteurs. Raymond Guiguet, qui a été acheté par la marque, va préparer ses moteurs à soupape en épingle. C'est des culbutés, moto performante, nerveuse, bien conçue et équipée de suspension arrière, ce qui est extrêmement moderne avant-guerre. C'est une innovation, vraiment. Alors après, on va arriver dans les années 50 avec le deux temps qui va prendre le dessus. Donc on aura des moteurs Villiers deux temps, 200 cm3, 125. On a un 232 aussi sur une moto. Ces motos-là vont être très performantes et vont être utilisées beaucoup en motocross à la fin des années 50, ce qui va décimer à peu près tout. Très dur de trouver une 232 d'origine parce qu'elles ont toutes fini en motocross. Ouais. J'ai réussi à en choper une quand même,
ouais.
Mais avec des années de recherche, elle était performante. Hein, c'était une moto vraiment intéressante. Ça aussi, c'est joli. Une 250 culbutée d'après-guerre, donc conception avant-guerre, remis au goût du jour après la guerre. Réservoir Motaz, gros phare, moto très élégante et c'était une machine nerveuse. C'était très agréable à conduire. Donc une Coleres-Coffier et on arrive dans des cyclo. Alors, le Castor, c'est un petit cyclo qui fait 112 cm3, qui est joli, qui est élégant. C'est une moto pour femmes.
Femme, oui.
Oui. Il y a une autre petite moto, là, qui est belle aussi. Et puis, on a ce fameux engin qui est entre le scooter et la moto, qui est vraiment curieux. Hein, ça va être la fin des années 50, on arrive au bout, quoi. C'est la Starlette de chez Monégoyon.
La Starlette, oui, c'est un châssis tôlé.
Hein, châssis tôlé, très curieuse machine.
Oui.
Et aussi, on peut parler du Pullman qui est là. Le Pullman, c'est une moto toute carrossée avec une suspension Grégoire juste incroyable. Oui. C'est vraiment une machine de folie. Elle est très confortable. Elle devait coûter cher à la fabrication, donc elle est peu répandue. On a la chance d'avoir un beau spécimen là. Donc voilà.
Ça, c'est donc pour le stand Monet-Goyon et Coquelin-Escoffier.
Oui.
On va essayer de passer très vite à la suite de l'expo, Jean-Luc.
Alors ici, il y a le Moulin Rouge. Dans Paris. Alors le Moulin Rouge a été fabriqué par des gars d'ici, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est une très belle déco. La tour Eiffel qu'on a mis aussi dans Paris vient d'une petite commune où le cantonnier a fait ça avec beaucoup de passion. Une petite tour Eiffel qui fait 6 mètres.
Elle est jolie, hein?
Oui, elle fait 6 mètres de haut, je crois, peut-être un peu plus. Elle est belle comme tout, avec de la palette, avec tout ça, mais c'est une réalisation très fine, très travaillée. On a des belles voitures. On a des voitures des années 20, des coupés de ville, même d'avant 14. Des voitures un peu de bourgeois à l'époque, hein, des aristos. Beau truc. Vraiment beau truc. Alors, des motos Dresch. Les motos Dresch, ça c'est un constructeur parisien, Henri Dresch, qui va essayer de faire des motos économiques à bas prix, ce qui va un peu lui jouer des tours après. Mais sur le stand, on a une culbutée là, qui est extrêmement rare. Il en reste quelques-unes. C'est des motos particulières. Ça fait partie de l'histoire. Newmap, moto plus cossue, fabriquée à Lyon. On a un Jubilé Newmap là, qui est vraiment beau. Et une 350 à moteur mag. Alors là, on a des trompe-l'œil magnifiques qui ont été faits par un peintre, on s'y croirait vraiment. Hein. On voit les soldats de 14 là, qui viennent vers nous.
Oui.
On dit ils vont traverser là. C'est beau, hein. C'est d'un réalisme absolument incroyable. On a une très belle voiture là, qui est une Léon Bollet, fabriquée au Mans. Notre décorateur nous a fait un beau Montmartre là, avec la voiture en bas. On a aussi une petite voiture de 1913 qui est une Laponette, fabriquée à Saint-Rémy-de-Chevreuse. Une petite auto magnifique, un peu sport, un petit peu. Elle a une très belle ligne.
Avec un moteur de 1300 cm3.
Oui, c'est un 4 cylindres. Oui, très performant, très bon moteur. Ouais. Un moteur ballot. Alors là, on est passé devant une moto qu'on a oubliée, qui est une Cepéroléo, qui est quand même pas banale. C'est une machine très rare, fabriquée à Paris, marque très peu diffusée. Sans doute à cause du prix, certainement. C'est de la tôle emboutie, c'est très particulier comme engin. C'est beau, moi j'aime beaucoup. On a une Majestic, New Motorcycle. Donc c'est le même constructeur que Majestic, Georges Roy, qui va nous fabriquer à l'époque des motos carrossées, tôlées, très, très particulières. C'est un moteur chaise qui va équiper ces motos-là. Souvent un arbre à cam en tête, là c'est un culbuté, mais une belle machine. C'est très aviation. C'est ça que j'aime. Alors, là, on est devant Paris, donc il y a une façade de bistrot qui a été peinte. C'est beau, très réaliste. On a mis des petites tables de bistrot en face pour faire encore plus vrai. On a des triporteurs. On a le facteur, un maquignon qui vendait un peu du vin et du cidre au tonneau, à la bolée, qu'on appelait ça. Comme ça, ils se baladaient dans les rues. Puis les gens qui avaient soif, allez, ils prenaient une bolée. Et hop, c'est joli parce que c'est un truc d'époque réalisé par Blotofrère, rue Charcot, à Paris, fabricant de triporteurs, de trucs très curieux. Là, on a une Rava, une Soyer qui vient de la famille Soyer, qui a été vendue par le petit-fils.
Elle est très jolie aussi.
Elle ne m'appartient pas, elle est un copain. Très belle moto, bien réalisée. Derrière, on a une Schöner & Welker, ça c'est ma voiture de tous les jours. Elle date de 1933 et j'adore cette auto. Elle est fiable. C'est une bonne auto. Voilà, on a perdu une roue l'autre jour. Là, il faut que je répare tout ça.
Oui,
voilà.
C'est les derniers des vieilles voitures et des vieilles motos. Hein.
Ben oui, il y a toujours à bricoler.
Donc, on passe à côté de cette fameuse Tour Eiffel.
La Tour Eiffel avec une Dollar, belle Dollar 500, culbutée, grand sport, une petite Favor qui est mignonne comme tout, avec un système. D'accord, je vois le truc. Elle a un système d'embrayage très particulier. Oui, il y a des motos comme ça. Hein.
Créé par la marque était créée par Etienne Guillaume, en 1898.
Oui, Favor va faire des vélos, puis après il va faire des motos. Cette petite moto-là est magnifique. Elle est dans un très beau jus. Je me rappelle l'avoir eue à Paris. Je faisais des expos ici, les Moulineaux, à l'époque. Et puis, il y a un monsieur qui me met un petit mot dans ma boîte à lettres et qui me dit, moi, j'ai une petite moto à Paris, dans un appartement. Alors, je ne sais plus combien d'étages il y avait. Je suis monté là-haut et j'ai vu cette jolie petite moto que je lui ai achetée. Ce n'est pas une moto d'une grande valeur, mais elle est extrêmement belle. Elle est dans un état d'origine magnifique. Et elle est belle, authentique, comme je les aime. On a une Talbot, très belle auto, grosse voiture, 6 cylindres, On a mis quelques belles autos dans ce Paris, là, comme c'était à l'époque. Une belle vitrine de marchands de chapeaux. Ça, c'est beau, moi j'adore. Oui. Avec quelques belles femmes costumées devant.
Oui, parce qu'il faut préciser aux auditeurs, hein, que tu ne collectionnes pas que les motos et les voitures aussi.
Ah ben oui, le but...
D'uniformes et de vêtements.
Voilà, il faut faire plaisir à tout le monde. Il faut que tout le monde y retrouve son compte. Oui. Donc les femmes qui aiment la mode, qui aiment les beaux chapeaux, ben, elles ont leur truc aussi ici. On a refabriqué plein de vieux magasins avec des thèmes, quoi. Hein? Là, on va arriver dans une marque magnifique, c'est la marque FN. La marque FN, fabrique nationale belge. On a un ami qui nous a prêté des 4 cylindres. On a 5 4 cylindres exceptionnels. Et puis, j'ai la mienne à côté, là. Quelques FN spéciales. Moi, j'aime beaucoup les FN. C'est une très belle fabrique. Ils ont fait des choses vraiment magnifiques. Et là, franchement, je pense qu'on a une des plus belles collections FN que j'ai vues et qui ferait pâlir tous les Belges. Hein? Donc, j'espère qu'il y en aura beaucoup qui viendront nous voir pour voir cette collection.
On voit une série là, de 4 cylindres là, qui sont très jolies. Hein?
Ouais, commence en 1904.
Hein? Ouais. On a 4 cylindres en ligne. Hein?
Ouais. Ouais, il y en a eu beaucoup de produits quand même, hein, des 4 cylindres FN. Ouais. Alors on a des belles aussi avec des gros pneus là, des pneus, des modèles confort. Il y a une belle M60, M69, enfin voilà, il y a toute une gamme dans des jus terribles. Moi j'adore les motos dans leur jus. Je me bats pour ça, pour les rendre les plus belles possibles dans leur jus. Là on va arriver dans les cyclocars. On a fait une scène de course avec des cyclocars. Alors là on a une voiture extraordinaire, une Silverhawk. C'est une pièce unique. Il y en a eu peut-être une vingtaine de fabriquées, mais elles ont toutes fini dans les talus, elles ont fait des courses. La Silverhawk était la concurrente de la Bugatti Brescia et roulait à 170 km/h à l'époque. Hein. C'est des petits avions de chasse. Moteur 4 cylindres, arbre à cam en tête, avec 1380 cm3, équipé d'un double corps. Alors cette voiture a couru au Mans, la Coupe des voiturettes, en 1920, avec un pilote qui s'appelait René Thomas, qui a été célèbre après sur de l'âge et tout ça. En 21, elle fera les Brooklands, les courses de vitesse, 22 aussi. Elle va être, le châssis va être percé après le Mans pour gagner du poids, pour pouvoir adapter un gros carburateur qui est très lourd, qui fait 16 kilos, je crois.
Ah oui.
C'est un carbu double corps. On n'est pas encore dans les compresseurs. Elle est merveilleuse. On a fait des manicours avec. Elle a roulé, on s'en sert. J'ai fait une fois Montlhéry aussi avec. Elle est belle parce que c'est rarissime de trouver une voiture de ces années-là, authentique, toute jus d'origine. Elle est vraiment très belle.
Voilà, et bien écoute, Jean-Luc, on va devoir terminer cette...
On a trop à voir.
On ne peut pas tout décrire, expliquer aujourd'hui,
oui.
Mais il reste encore beaucoup. Hein.
Mmh.
On rappelle, hein, jusqu'au 1er mars, à l'exposition ici, Château-Gontier. Hein.
Voilà.
Donc, espace Saint-Fiacre. Donc, 7 jours sur 7, hein, de 10h à 18h.
Tout à fait.
Donc, bah, merci encore pour toutes ces explications. Parce que là, on n'en est même pas encore à la moitié d'expo. Hein.
Ah non.
Merci à toi, Jean-Luc.
Ben, merci aussi à toi. À bientôt.
Spend my
Et voilà, je suis avec Barthélémy, cofondateur de Pégase Événements. Voilà, bonjour Barthélémy.
Bonjour, bonjour.
Explique-nous un petit peu ce que c'est que Pégase Événements.
Alors, Pégase Événements en Mayenne a comme cœur de métier les salons, foires, journées d'entreprise, réceptions. Et on travaille depuis 2010, en fait, sur le territoire du pays de Château-Gontier. Donc on a hérité de différents événements et nous l'idée c'était de continuer de poursuivre notre activité en les fédérant et puis de se diversifier. Et aujourd'hui c'est ce qu'on fait maintenant après toutes les péripéties qu'on a connues, que ce soit Covid ou autre et tout, etc. Bon, c'est pas terminé mais là on rebondit, voilà.
Donc là aujourd'hui on est donc espace Saint-Fiacre pour l'épopée du Deux-Roues. Et donc c'est toi qui as eu cette idée, c'est toi qui a été voir Jean-Luc pour le convaincre de présenter ces motos, de faire cette exposition un peu fantastique ici. Hein.
Oui, la Mayenne est remplie de surprises et j'ai eu connaissance d'un personnage, voilà, situé à Montflour, dans l'antre du Deux-Roues, que j'ai rencontré maintenant il y a un peu plus de 10 ans, hein, 12 ans. J'étais chez Jean-Luc en 2014, après un gros événement qu'on avait à Laval avec une bande de copains. Et là, on a passé les 3 heures magiques dans toute la caverne de Jean-Luc. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, quoi, en fait, au final. Donc, et déjà passionné de deux-roues et tout. Et là, j'ai été submergé, ébloui. Et cette idée m'est restée en tête. Et puis, en fait, face à ce qu'on rencontrait dans l'événementiel dans le pays de Château-Gontier, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je comprends pas que cette personne ne soit plus... OK, il joue dans des films, il présente des bécanes un peu à gauche, à droite, il raconte tout, c'est un vrai personnage pour le milieu du deux-roues, pour tous les passionnés et cultivés. Il y a 4 ans, je me suis dit, j'appelle. J'ai appelé Jean-Luc Gagnard, que je connaissais absolument pas, si ce n'est cette visite. Et puis Jean-Luc m'a dit, écoutez, oui, je vous reçois demain, pas de souci, demain, mercredi après-midi, on se retrouve à la maison, ok, super. Donc là, je lui ai dit, écoutez, monsieur, j'aimerais bien vous proposer de déplacer tout votre musée. Quoi,
et voilà. T'étais avec le maire de...
Non, j'étais tout seul. Je lui ai dit, moi, j'ai pensé à une chose incroyable qu'on pourrait créer sur Château-Gontier, l'épopée du Deux-Roues, retracer l'histoire de toute la mobilité, pourquoi, sur Deux-Roues et tout, etc. Jean-Luc m'a dit, c'est bien ce que vous dites et tout, et on ferait ça où et tout. Alors, moi, je lui ai expliqué, j'ai une société d'événementiel, on est basé à Château-Gontier, on a un outil sensationnel qui permet d'exposer et puis aussi de recevoir. C'est un outil magique, il faut le voir et tout, etc. Et puis on s'organise sur le rétro-planning pour mettre tout ça en place. Donc Jean-Luc m'a regardé, il est aussi fou, il est taré, il est fou ce gars, il arrive, il me connaît pas et tout. Mais il m'a dit, l'idée me plaît, me séduit énormément, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Maintenant, je veux rencontrer les politiques que tu côtoies et voir dans quel cadre on organise ça. Et puis Philippe Henry, le maire de Château-Gontier, donc bienveillant, à qui j'avais déjà parlé de ce projet-là, qui m'avait dit, tu déplaces le musée, tu viens ce week-end, et puis vous faites un petit truc là. Non, Philippe, là on est dans une autre dimension. Est-ce que tu connais Jean-Luc Gagnard? C'est celui qui a reçu Brad Pitt, là, etc. Voilà, ouais. Et pour le coup, je lui dis oui, entre autres, mais bon, ça, c'est pas le plus important. Maintenant, si tu peux bloquer une après-midi et venir avec moi à Montflour, je te présente Jean-Luc Gagnard et vous faites une petite visite du musée en tête à tête. Et puis on fait un débrief à la sortie. Et donc Philippe Philippe, c'est quelqu'un de très ouvert et très à l'écoute.
Monsieur le maire de Château-Gontier.
Ouais, qu'on embrasse tous et ainsi que ses équipes, parce que c'est aussi des projets qu'on crée grâce à cette alchimie, vous allez comprendre par la suite. Et Philippe Henry a passé donc 3 bonnes heures à Montflour avec Jean-Luc. Je les ai laissés tous les deux parce que Jean-Luc avait besoin d'être serein par rapport à la dimension du projet. Et l'ampleur, ce que ça allait prendre comme proportion. Et puis à la fin de leur entretien en tête à tête, Philippe Henry m'a dit je t'accompagne et je donne les moyens à Pégase Événements et Jean-Luc Gagnard de faire quelque chose de très sérieux à Château-Gontier. Donc j'avais un point, le mien, ma motivation. Le deuxième, Philippe Henry, qui était la motivation de Philippe aussi, qui était acquise. Restait celle du dieu du deux-roues, qui devait se positionner par rapport à tout ça. Et Jean-Luc m'a dit, on y va. On y va, on envoie tout. Et puis voilà, est née l'épopée du deux-roues, donc il y a à peu près 2 ans et demi. Et puis après, on a associé plusieurs personnes. Safi nous a rejoint, Agnès, et on a travaillé avec nos équipes, on s'est mobilisé et on a commencé à faire connaissance avec tous les collectionneurs qui se sont joints avec nous au projet. Et bon, inutile de représenter Jean-Luc Gagnard. Jean-Luc Gagnard, c'est un vrai personnage dans le monde du deux-roues, donc c'était assez simple. Mais là, c'était autre chose. Déplacer ses enfants, ses bébés, les apporter, faire confiance. Organiser la logistique, c'était pas sans conséquence et voilà, après tout, c'était que la 2e ou 3e fois que je le voyais. Donc. Et puis, on a trouvé toutes les solutions et il a référencé tout son musée, on a tout organisé et on a organisé une chronologie pour raconter toute l'épopée du deux-roues avec Jean-Luc. Commencer toute l'histoire parce qu'il y avait des questions sur le vélo, sur les premières mécaniques, les révolutions industrielles, mécaniques et tout. Puis arrivent les moteurs thermiques. Bon, bah là, voilà, là, on n'a pas fini l'histoire. Et Jean-Luc, pour le coup, m'a dit voilà, on fait ça sur une 20aine de scènes. Il avait déjà ses périodes historiques phares. Et puis on a greffé. On a été collecter des décos par rapport à la presse hein, qu'on côtoie. On a la tour Eiffel de Lonévilliers, on a créé les Moulins Rouges, on a rassemblé tous les frangins. Les frangins, c'est tous les collectionneurs, tous les grands potes de Jean-Luc qui, pour le coup, eh bien, se sont joués au projet. On crée des galeries et tout. Et puis ça y est, c'est parti. Et donc là, on est porté par 2 ans de préparation. Ouais.
Dis-moi, tu roules en moto ? T'as ton permis ?
Ouais, je roule à moto, j'ai un RT80 BM.
Ah oui ?
J'ai roulé en Triumph, en Street Triple, et puis vieillissant, bon an, mal an, je rêve de m'acquérir une belle petite moto, ouais, pourquoi pas demain, mais c'est vrai que je suis pas un vrai motard, je roule quand il fait beau, quand ça glisse pas, et quand je suis sûr de rester sur mes roues, quoi.
Donc là, tu connaissais le monde de la moto, parce que là, c'est
ouais,
t'es en plein dedans, là.
Ouais, je suis en plein dedans, mais plus que ça, parce que oui, je suis les GP, ça, forcément, comme tout le monde, je suis adepte à tous les GP.
Il n'y a pas que ça, là, de la moto.
Non, il n'y a pas que ça, bon, je suis un ch'ti aussi, hein, on va pas se voler la face, le Touquet, tout ça, l'enduro, oui. Thierry Sabine, oui. C'est mon enfance. Voilà, on a quand même un événement d'enduro au Touquet exceptionnel. Voilà, j'ai vécu le moment tragique du Normandie Race Beach aussi. J'y suis allé. Ouais. Voilà, ouais, c'est des gens à qui il faut rendre un très, très grand hommage aujourd'hui parce qu'on y pense. Dans toutes les revues, on voit encore ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que là, l'approche avec Jean-Luc, ça m'a donné des portes très, très grandes ouvertes sur tout le réseau de Jean-Luc qui est juste exceptionnel. Donc, j'en profite. J'ai une chance inouïe dans l'événementiel de vivre ça depuis 2 ans. Ouais. C'est un rêve de gamin.
Bon, dernière question, qu'est-ce qui a vraiment été le plus difficile ?
Le plus difficile, après il y a toujours cet aspect de doute qui vous dit tiens, ça va marcher, ça va pas marcher. Moi j'étais sûr du projet, j'étais sûr de ce qu'on allait présenter, je savais que ça allait être très quali, il y avait une exigence derrière parce que Jean-Luc, c'est pas parce qu'il a dit oui que tout est acquis, c'est quelqu'un qui revisite l'expo matin et soir encore en ce moment, il est arrivé ce matin, il y a un cadre qui est tombé, il fait sa petite balade et tout, nous on est ravis chez Pégase de lui faire cet hommage, mais en même temps, on contrôle tout, toutes les bébés sont là, tout le monde a bien dormi et voilà, il y a toute cette question, tout le monde est parti de Montflour, tout le monde doit rentrer à Montflour et aussi chez tous les grands collectionneurs qui nous ont bien aidés dans cette réalisation. Donc moi je dormirai quand tout le monde sera retourné à la maison. Ouais.
Oui, parce que ça va durer un mois et demi. Hein.
Ça dure 45 jours, ouais, c'est pareil, voilà, on déplace, on travaille, tout le monde a mis ses petites mains, c'est un travail, moi j'appelle ça les gardiens des temples, là on est vraiment avec les gardiens des temples et tous ceux qui sont passés dans cette aventure que j'embrasse encore aujourd'hui parce que même si on a notre Jean-Luc, on a aussi toutes ces équipes incroyables qui pendant toutes ces journées nous ont accompagnés depuis le 26 décembre parce qu'il fallait tout ranger, tout nettoyer, remettre tout le monde, refaire une beauté à toutes ces brêles. Donc ça a été fait avec passion, avec envie, avec il y a une alchimie et dans l'événementiel quand on a la chance d'être porté par cette alchimie, c'est on arrive à ces résultats-là aujourd'hui, quoi. C'est magique. En 15 ans, on est en train de vivre un moment incroyable. C'est un très très bel hommage aux deux roues, parce que voilà, le monde évolue. Demain, on sera peut-être sur d'autres bruits, d'autres moyens de transport différents. Mais il faut pas oublier que ces histoires, on les a tous en tête, le bruit, l'odeur et tout, et que maintenant, ça fait partie de notre vie, de notre génération. Voilà, et le plus longtemps possible.
Bah bien, mais écoute, je te remercie. Ouais, ouais, à moins que tu veux rajouter encore quelque chose.
Ah non, un grand merci à vous. Moi, j'adore les ch'tis. Ça fait vraiment plaisir de Lille, hein, Valenciennes, tout. J'embrasse tout le nord de la France avec un grand cœur. Et puis, on les attend à Château-Gontier, en Mayenne.
Jusqu'au 1er mars.
Jusqu'au 1er mars.
On a le temps, hein, le temps de venir. Hein, ouais, très bien. Merci, Berthélémy.
Avec plaisir.
Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice. Till the angels come and ask me to fly. Gonna be 18 till I die. 18 till I die.
Toujours à Château-Gontier, donc à l'espace Saint-Fiacre, pour cette fameuse épopée du deux-roues. J'ai Agnès devant moi. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Alors, bah, il faut préciser aux auditeurs de Radio Campus Lille que tu es la fille de Jean-Luc Gagnard.
Tout à fait.
Et c'est aussi coordinatrice de l'événement.
Oui, voilà, on a organisé tout ça ensemble, donc c'était une belle aventure à faire. Et puis voilà, de A à Z, du montage, de la préparation des plans, des scènes, et puis après de faire tout ce qui est organisation des véhicules, chargement, préparation des véhicules, voilà, jusqu'à l'installation finale.
Bon, vous avez commencé quand cette recherche-là de matériel, enfin de scène?
Alors, on a commencé un petit peu à s'occuper de tout ça mi-2024. Et puis, moi, j'ai été embauchée donc, par Pégase Événements depuis le début de l'année 2025. Donc, les plans, tout ça, on a fait ça, j'ai fait ça en début d'année. Et après, bah, progressivement, on a étoffé pour préparer tout l'ensemble de l'événement.
D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire et à préparer?
Alors, le plus difficile, moi, je dirais que, vu que je devais faire des plans et des plannings, c'était de joindre donc papa et Barthélémy.
Oui.
Donc, voilà. Et donc, oui, voilà, le plus difficile, c'était de coordonner un petit peu ces deux électrons libres qui ont toujours plein d'idées.
Qui est Barthélémy.
Barthélémy
et ton
papa.
Père.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, c'était ça. Il fallait jouer sur les deux tableaux, changer un petit peu les plans tout le temps, enfin, des choses comme ça.
Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, cette première rencontre-là, quand Barthélémy est venu proposer de faire une exposition donc ici à Château-Gontier, dans cette salle de 4000 m² quand même. Hein, donc, c'est quand même impressionnant. Qu'est-ce qu'il a... Tout de suite, il a accepté, il a adhéré au projet ou il a dit bon, je vais réfléchir?
Alors bah forcément réfléchir un petit peu quand même pour voilà, c'est pas une petite affaire. Donc il fallait voir si c'était faisable au niveau transport, logistique, hein, c'était vraiment beaucoup de boulot. D'ailleurs, c'est pas fini parce qu'après il y aura le remballage et c'est aussi énormément de travail. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à voir si c'était possible sans abîmer le matériel bien sûr, en faisant attention à tout. Et puis voilà, voir si c'était faisable sur la durée de préparer tout cet événement là, si ça allait intéresser assez de personnes bien sûr.
Donc oui, c'est ça c'est qui est important aussi, hein.
Ouais, bah oui, complètement, c'était vraiment le but, c'était de pouvoir toucher un public global, hein, pas que de passionnés, de personnes de tout genre, voilà, qui viennent, qui s'y connaissent ou non en moto ou en automobile. Donc voilà.
Très bien. Agnès, on te voit de plus en plus avec ton père. Maintenant, j'ai l'impression que tu t'occupes vraiment un peu plus de son musée à Montflour. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu voudrais continuer à faire vivre?
Alors en fait, donc, avec mon père, on a toujours fait tout ce qui était démonstration de moto, de sidecar, de voiture à différents endroits en France. Ça a toujours été une passion commune. On a toujours été très proches. Donc voilà, ça n'a pas changé. Et ce qui est bien grâce à cet événement-là, c'est que du coup, j'ai pu être embauchée donc pour travailler H24 avec papa. C'est ça qui nous a permis de pouvoir vraiment travailler ensemble et donc être là tout le temps ensemble pour travailler sur cet événement-là. Et on aimerait bien par la suite soit en fait faire un projet de musée ou voilà, de façon à faire perdurer le travail qu'il a fait depuis des années.
Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Tu voudrais faire un vrai musée, je vais pas dire, de toute façon, dès quand tu vas à Montflour, c'est déjà
ça.
Un musée, hein, voilà. Moi je dis musée rural, mais
voilà,
oui, c'est vrai. Hein.
De faire un musée en fait ouvert au public, oui. Tout simplement. Oui. Qu'il soit pas uniquement sur réservation, voilà, vraiment
avec des idées aussi de faire des repas, faire des éventuellement
que ouais, ce soit des animations aussi. Complètement.
Pas qu'à musée, parce qu'on sait que c'est très difficile les musées, hein, de faire vivre.
Ouais, bah oui, non, faire des animations, faire voilà, co-organiser avec d'autres personnes aussi, faire venir d'autres collectionneurs, pourquoi pas, ou faire des petits ateliers aussi. On pensait aussi à faire un atelier mécanique sur le lieu. Quand on aura un projet plus définitif, voilà. Mais voilà, faire vivre l'endroit.
Très bien. Est-ce que tu t'y connais, là, dans mécanique, toutes les marques qui seront présentées aujourd'hui? Il y a plus de 300 véhicules. Est-ce que tu connais toutes les marques des motos, les types, les modèles?
Alors, j'ai fait toutes les fiches.
Comme ton père, ouais, t'as fait les fiches.
Alors, j'ai fait toutes les fiches techniques des
véhicules.
Ouais,
mais c'est pas forcément que tu t'en souviennes encore.
Donc, je m'en souviens de certains, mais bien sûr, je connais moins bien que papa, parce que, voilà, oui. Ça fait 50 ans qu'il le fait, donc forcément, voilà. Moi, je suis passionnée du côté histoire. Je suis beaucoup moins dans la mécanique, parce que j'ai beaucoup moins de patience que lui. Ce que j'aime bien, c'est rouler. Et puis voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'histoire des véhicules. Donc forcément, l'histoire des marques et tout ça, j'aime beaucoup. Après, effectivement, ça reste lui, le grand passionné et professionnel qui va savoir le moindre petit détail de chaque moteur.
Le petit boulon, les petites vis qui manquent. Hein.
C'est ça, voilà.
Il faut aller la rechercher, celle-là. Hein.
C'est ça.
Voilà, ça, c'est pas... Il y a encore du boulot, là.
Ah bah, oui, voilà. Mais après, c'est moi, je vais compléter papa sur des choses. On se complète tous les deux. Donc comme ça, c'est bien. On a chacun nos qualités et puis nos connaissances qui sont différentes et qui se complètent bien.
Qu'est-ce que tu as fait de fantastique avec lui?
de fantastique. Oui. Oh bah tout, plein de choses. Enfin, c'est...
Non, mais sur les, je sais, vous partez sur les circuits aussi.
Ouais, complètement.
Dans les démos, démonstrations de motos anciennes, ouais, les voitures aussi anciennes.
Bah oui, c'est ça. Voilà, quand on va à la Châtre, quand on allait au Puy, quand, enfin voilà, on fait toutes sortes de démonstrations et elles sont toutes exceptionnelles. Quand on va à Manicourt, au Mans, enfin voilà, c'est vraiment un vrai plaisir. Et puis de partager ça tous les deux, d'être tous les deux en même temps sur la piste, c'est trop bien. Voilà, on se double, voilà, on se redouble, donc c'est cool.
Ah, vous avez chacun votre véhicule?
Ouais, bien sûr.
Ah, moi,
sûr,
je pensais que tu montais quand sur les voitures ou...
Non, on a chacun notre voiture, on roule tous les deux en MGPA.
Ah, oui.
Voilà, et en moto,
ah,
on roule...
Ah, vous tirez un petit peu une petite...
Ouais, on se tire la bourre un peu.
Une petite bourre, là,
c'est ça.
Hein, à deux.
C'est ça, voilà, et puis on roule aussi tous les deux en moto Guzzi, par exemple. Donc on fait la team Guzzi tous les deux, c'est cool.
D'accord.
Et voilà, donc ça, c'est chouette de partager ça ensemble.
D'accord. Et je sais que tu as une petite fille.
Oui, et un petit garçon.
Et un petit garçon aussi.
Ouais.
Donc, tu penses qu'ils vont reprendre la relève?
Oh bah oui, tous les deux.
Trois générations
ils
de...
Ils aiment bien, c'est ça, ouais. Non, ils aiment bien aussi. Mon petit, il aime bien tout ce qui est touché à toute la mécanique et tout. Donc, bon, bien sûr, il ne faut pas qu'il touche à tout, voilà. Et ma fille, bah, c'est une passionnée aussi. Donc, voilà, ça s'entend bien, tout ce monde-là.
Qu'on a tout dit. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Eh bien, que tout le monde vienne voir un petit peu ce qu'on a fait, du coup, ici à Château-Gontier. Vienne voir nos magnifiques décors, notre super exposition, voilà, avec les décors immersifs. Vraiment, on a essayé de créer des ambiances avec des films, avec du son image, vraiment, pour que les gens soient plongés dans l'histoire, dans le thème. En fait, l'exposition est divisée avec différents thèmes sur lesquels on a réparti les véhicules. Et voilà, le but, c'est que chacun s'y retrouve dans un thème ou dans un autre et se sente vraiment soit rappeler des souvenirs ou s'imagine plein de choses et voilà, fasse rêver les gens.
Oui, et puis c'est pédagogique. Tout à l'heure, on a eu des visiteurs, hein, on a eu des visiteurs au micro, hein, avec des enfants. Et donc, ça leur permet, les enfants, de voir un petit peu comment, à l'époque, comment on roulait comment étaient les voitures et puis les motos et puis comment on roulait sur la route. Hein.
Oui,
voilà, avec les vélos aussi.
C'est important de ne pas oublier notre passé et justement de le faire redécouvrir aux jeunes générations. C'est extrêmement important qu'ils savent voilà, tout ce qui s'est passé avant, d'où ils viennent, et voilà, pour pas que ça se parte dans l'oubli.
Très bien, Agnès. Ben, écoute, je te remercie pour cette superbe interview.
Merci beaucoup à toi.
Ouais, nous sommes donc l'épopée du Doro, donc Château Gontier, hein, espace Saint-Fiacre, et j'ai rencontré Adrien. Adrien, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Adrien, je ne sais pas comment te présenter, tu es le petit-fils spirituel de Jean-Luc, explique-nous un peu.
Eh ben, j'ai rencontré Jean-Luc il y a 15 ans à peu près, à un rassemblement de vélo. Il cherchait des personnes pour faire du vieux vélo à la petite coire à côté d'ici. Et donc, nous sommes arrivés avec plusieurs copains. Et puis,
c'était quand ça ?
Il y a une quinzaine d'années.
D'accord. Et tu es de moto ancienne, de véhicule ancien ?
Alors, toujours passionné par la mécanique, mais véhicule ancien, je ne connaissais pas du tout avant. Et Jean-Luc m'a offert une moto. Et depuis ça, c'est le début du virus.
C'est sympa, ça.
Voilà.
T'as offert une moto, ouais.
Ouais.
Et donc, depuis là, tu as commencé à collectionner des machines, des motos ?
J'ai commencé par faire les mécaniques pour pouvoir m'en acheter.
Oui, bien sûr.
Et puis, bah, j'en ai plusieurs maintenant, et de plus en plus, on va dire.
5, c'est ça ?
À quelque chose près, oui.
Ouais. D'accord. Et c'est devenu une passion, donc, pour toi ?
C'est un métier passion, oui.
C'est un métier, c'est-à-dire que tu gagnes ta vie avec ça ?
Avec ça, oui.
D'accord, c'est-à-dire que tu fais la mécanique pour d'autres personnes ?
Oui.
D'accord.
Plus avant-guerre que moderne, mais...
Comment ça marche ? On t'appelle pour... si des gens, éventuellement, qui ont des problèmes donc, qui ne savent pas résoudre,
voilà,
on
c'est
t'appelle ?
Beaucoup de collectionneurs.
Des collectionneurs ?
J'ai l'entretien du parc véhicule de ces personnes.
D'accord. Puis, et toi, donc, comment ça s'est passé au début avec Jean-Luc ?
Jean-Luc m'a laissé faire l'entretien sur un de ses véhicules. Et puis,
vous êtes rencontrés où, d'ailleurs ?
À la petite couère à côté, un musée de véhicules anciens.
D'accord. Et à quelle occasion ? Au bar ?
Non, du tout. Il faisait une porte ouverte et puis on a sympathisé.
D'accord. Et il t'a dit, écoute, je cherche un petit jeune.
Voilà, c'est ça.
Qui pourrait me donner un coup de main pour ma collection.
Le feeling est passé.
Et toi, tu ne le connaissais pas à l'origine ?
Je ne le connaissais pas du tout avant.
D'accord. Et tu habites où ici par rapport à Château Gontier et Montflour, il a son musée, Jean-Luc ?
Une demi-heure du musée et une demi-heure d'ici.
D'accord. Donc il t'a invité chez lui pour te montrer.
Voilà, et
sa
c'est
collection.
Là que j'ai vu l'ampleur des choses. Et puis,
ça t'a pas impressionné ?
Pas du tout, non. C'était très sympathique.
Tu trouvais que c'était normal d'avoir autant de motos et puis aussi des voitures, il faut dire.
Ouais. Normal, je sais pas si c'est normal, mais c'est une belle collection.
C'est une belle collection, oui. Ouais. Tu voudrais faire une collection un peu comme la sienne ?
Pas forcément l'égaler, mais...
Tu as une autre idée de la moto ancienne ou de la collection ?
Non, j'aime bien les collectionner, mais de là en avoir autant...
Donc voilà, alors Adrien, on est aujourd'hui donc à cette fameuse exposition, l'épopée du Doro. T'en penses quoi ?
C'est une chose géniale.
Même
pour les non-collectionneurs, c'est très intéressant à voir.
Alors tu crois effectivement des gens qui ne sont pas trop amateurs de motos anciennes, de véhicules anciens, hein ?
Non.
Tu penses que ça peut les intéresser ?
Oui, parce que les gens qui étaient avec nous à manger ce midi ne connaissaient pas du tout les véhicules anciens et ils ont apprécié la visite.
D'accord, très bien. Et puis oui, c'est important, c'est un patrimoine, il faut faire découvrir aussi, hein, aux jeunes.
Oui.
Parce qu'on voit, en fait, depuis tout à l'heure, on n'a pas vu trop de jeunes quand même.
Généralement, sur les rassemblements, tout le monde dit que je suis le plus jeune.
Hein, oui. Des jeunes motards, on n'a pas vu beaucoup, mais c'est un peu un tort pour eux, hein, parce que si les motos actuelles sont comme elles sont, c'est parce qu'avant, il y a eu toutes ces motos qui sont présentées ici à l'expo. Hein.
Oui, et ça a très vite évolué.
Et ça évolue, hein, quand on regarde un petit peu toutes les innovations sur les machines.
Ah, complètement.
Quelle marque tu préfères ?
J'ai un petit faible pour les Colliers Escoffier quand même.
Ah, toi aussi ? Et pourquoi ?
La forme du véhicule, la conception,
c'est-à-dire
c'est très bien réfléchi comme véhicule. Très belle mécanique.
Donc là, c'est bicylindre ?
Mono ou bicylindre, oui.
Mono ou bicylindre en V, c'est ça ?
Oui.
En V, ouais.
Et même les 4 cylindres FN. Non, Colliers Escoffier, c'est une... Monégoyon, c'est une sous-marque de Colliers Escoffier.
Ouais. Compliqué la moto ancienne, hein. Il faut être très pro. Hein. Voilà, très bien.
Et puis à l'époque, il y avait beaucoup plus de marques qu'aujourd'hui.
Voilà. Donc après, alors c'est vrai, dans cette exposition, il y a cette fameuse exposition des vélos, hein, quand on rentre dans la salle.
Oui, les Dresiennes, les Grands Billes.
C'est là aussi où on voit l'évolution du vélo, hein, pour en arriver maintenant à ce qu'on a ici en 2026.
Ah,
hein.
Oui, les Dresiennes en bois.
Il a bien fallu commencer par là.
Mais ça a très vite évolué, parce qu'il y a eu très vite des cadrans en alu, et pédaliers avec des vitesses.
La pédale qui arrive, vous voyez, avec la chaîne.
Avec la chaîne, et puis par la suite, les freins à patins.
Oui.
Et puis bah, on arrive au vélo.
Oui, parce qu'avant on mettait des pieds pour freiner.
Ah oui,
on mettait des pieds.
Il fallait des bonnes chaussures.
Il fallait des bonnes semelles. On allait souvent chez le cordonnier.
C'est ça.
Voilà, très bien. Et puis, oui, quand on fait le tour de cette exposition, après, il y a l'expo, alors il y a Harley, Diane aussi, hein, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire aussi hein.
La tranchée.
Oui, la tranchée aussi.
Une très belle reproduction de la tranchée.
Voilà.
De la guerre 14.
Oui. T'es aussi amateur de la Première Guerre mondiale?
Un peu moins. Un peu moins. Bah, l'histoire, j'étais pas trop bon à l'école, donc je suivais pas trop. Mais non, un peu moins. Mais par contre, c'est génial de refaire des reproductions comme ça.
Voilà.
On s'est très bien amusé à refabriquer la cabane, la mise en scène, tout.
Ah oui, vous avez fait ça ensemble?
Oui.
Il y a des brillants encore, éventuellement.
Bah, il faut venir nombreux.
Voilà, bah oui, venir nombreux. Hein. Et que ça va durer jusqu'au le 1er mars. Voilà, je suis avec Eurydice, la compagne d'Adrien. Bonjour Eurydice.
Bonjour.
Tu fais du cycaire avec Jean-Luc.
Oui.
Raconte-nous un peu comment ça se passe.
Alors, au début, en fait, c'était pas Sidecar. Il nous a proposé d'aller sur des circuits pour le voir courir et je me suis retrouvée dans la Silver Hawk avec Adrien pour
faire
des tours.
Qu'est-ce que c'est que cette Silver Hawk?
Ah, la Silver Hawk, c'est une...
Précisez aux auditeurs de Radio Campus Lille.
C'est une voiture entre les années 20 et les années 30. Une très ancienne voiture.
Oui.
Et du coup, on s'est retrouvés à courir à Manicourt.
Oui.
Et donc, comme il a vu que j'étais très intéressée et passionnée, en fait, de véhicules anciens, de mécanique, de sport mécanique, il m'a proposé pour Angoulême d'être le singe.
Et de nom.
Dans le sidecar.
Bah, c'est une femme.
Oui, mais c'est le singe qu'on
soit
dit.
Soit singe ou guenon. Il y a des gens qui n'aiment pas, qu'on appelle le passager le singe ou le guenon.
C'est comme ça que ça s'appelle.
Mais normalement, c'est comme ça que ça s'appelle.
Voilà.
On a toujours dit ça, donc je ne vois pas pourquoi on ne dirait plus.
Voilà. Donc c'était super, parce qu'en fait, le circuit avait été fermé pendant 30 ans pour les motos.
Oui.
Et du coup, j'étais la première femme à revenir sur le circuit pour la réouverture.
Number one.
Voilà.
Ouais. Féminine.
Voilà.
Alors, comment ça s'est passé? Tu avais une expérience de sidecar? Alors, quand on parle de sidecar, c'est de sidecar de cours débassé. Hein.
Alors, pas trop, non. Non. Je suis allée un petit peu avec Adrien pour tester ce que c'était.
Oui.
Et non, j'avais pas du tout de...
D'appréhension?
Non, comme j'aime ça. Allez, hop, on met le casque et on y va. On se pose pas de questions.
Bon, encore, c'est des voitures, c'est des motos qui, des motos anciennes, hein, qui ne roulent quand même pas très. Enfin, ça roule assez vite, mais pas comme des sidecars modernes.
Non. Mais
donc ça va encore.
C'était vraiment, c'était quand même impressionnant et c'était vraiment.
Est-ce qu'on t'a expliqué un petit peu ce qu'il fallait faire?
Oui. J'ai eu quand même une petite formation avant.
Durant le tour de chauffe, des explications.
Oui, moteur éteint déjà. On avait fait des tests.
Ouais.
Et après, on a eu le droit à deux petits tours de chauffe parce qu'il y avait un petit problème au niveau du carbu. Donc, ce qui m'a permis de connaître le circuit. Et après, c'est parti.
Très bien. Alors, et après, est-ce que tu as continué
à
faire la passagère en sidecar?
C'est prévu.
Ah, c'est prévu?
Oui, j'attends les dates. Il n'y a plus qu'à. Voilà.
Très bien. Il y a Adrien qui rigole, là, mais je ne sais pas. Alors, je ne sais pas s'il rigole blanc, rouge ou vert, mais...
J'aimerais bien qu'Adrien m'emmène la prochaine fois.
Ah oui?
C'est prévu.
Voilà, c'est le rendez-vous est pris. Hein.
C'est ça.
Voilà. Et donc, d'autres expériences, éventuellement, que tu pourrais raconter aux auditeurs de Radio Campus Lille?
Alors, des expériences en...
En moto, forcément.
Ah bah moi, je fais de la moto depuis que je suis tout petite, en fait. J'ai mon papa qui était motard et je suis montée sur la première motocross, je devais avoir 6 ans. Et donc voilà, c'était déjà bien ancré. Et j'ai toujours aimé les sports mécaniques. J'ai toujours mon papa qui m'a appris plein de choses en mécanique, que ce soit sur la voiture. Donc après, voilà, j'ai travaillé dans le domaine de l'hélico.
Oui.
J'ai travaillé 5 ans dans une école de pilotage d'hélicoptère, donc où j'ai pu piloter, où j'ai pu... des supers expériences.
Ça doit être bien, ça, de piloter un hélicoptère.
Voilà, c'est génial.
Ouais.
C'est d'autres sensations, mais c'est vraiment super. Et je pense qu'une fois qu'on goûte au sport mécanique, on ne peut plus s'en passer.
Très bien.
On est piqué.
Et ensuite, est-ce que tous les jours, est-ce que tu roules en moto?
Oui.
D'accord, avec quelle machine?
Alors, j'ai une ER6N. Mais actuellement, je vais restaurer ma première Monet Goyon.
Ah, ça y est.
Voilà, donc avec Jean-Luc qui...
A chopé le virus.
Oui, Jean-Luc qui m'a récupéré...
C'est pire que le Covid, hein.
Voilà, et après, il faut chercher les
donc
pièces.
Donc, tu vas restaurer Monet Goyon. Alors, comment ça se passe? Comment elle est dans quel état elle est, cette machine?
Alors, elle est en pièces. Pour l'instant, il y a la partie cycle d'un côté, le moteur de l'autre. Il va falloir aller à la recherche des autres pièces.
Bah oui. Et quel esprit tu prends, là? Est-ce que tu veux tout refaire à neuf ou tu laisses un peu comme Jean-Luc? Lui, il aime bien laisser les machines dans leur jus. Hein.
Alors, au début...
Il aime pas repeindre, et voilà.
Oui, alors au début, je voulais plutôt qu'elle reste dans son jus. Mais bon, à force de récupérer des pièces qui ne sont pas des mêmes couleurs, il va falloir qu'on voit l'autre solution où on va la refaire complète.
Avec des peintures de cadre, de châssis peut-être?
Oui.
Un réservoir aussi?
Oui.
Toi, tu préfères avoir vraiment une machine alors avec éventuellement les couleurs
d'origine.
Hein.
Oui. Oui, elle sera refaite avec les couleurs d'origine. Après, il faut trouver... pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé laquelle.
Oui. Il va falloir faire des recherches pour savoir comment étaient peintes
comment
ces machines.
Les autres, oui. Souvent, elles étaient noires avec des rayures...
Suivant
des
les années aussi, ça change.
Oui.
La cylindre vendrez aussi des motos aussi, éventuellement?
Oui, c'est une 250 là.
Très bien. Et puis, c'est un projet à combien? 2-3 ans?
Oh, j'espère moins.
Oui.
Oui, dans...
Ah, mais tu m'as dit que vous allez vous marier, il va falloir du pognon après pour vous marier.
Oui, mais...
Vous ne pouvez pas tout faire.
Il faudra bien mettre quelques bécanes à droite et à gauche pour faire les photos.
Dans le mariage. D'accord. Bon, alors, d'ici un an, quoi.
Oui.
Tu vas pouvoir rouler en ancien.
Pas le mariage, par contre, je vais avoir du mal à le décider si vite.
Ah,
mais
oui, ah oui, c'est ça le problème. Ah, il n'est pas encore décidé, madame.
Non, il ne sait pas encore, mais...
Ah, il ne sait pas encore.
Non, ça va.
Ah, bah, maintenant, il sait. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore, Rudis?
Eh bien, venez à l'épopée des deux roues.
Oui.
C'est vraiment une superbe exposition, avec les rues de Paris, avec les ateliers. C'est vraiment chouette.
Il manque que les bruits, éventuellement, hein, dans chaque stand, un peu. Enfin, on ne passe pas d'un stand, mais les images, un peu, avec les bruits, ce serait bien.
Eh bien, il y en a au niveau de la tranchée.
Il y a au niveau de la tranchée, mais c'est seulement à cet endroit qu'il y a des bruits.
Après, il y a les écrans sur lesquels sont diffusés des vidéos très intéressantes. Donc je convie tout le monde à venir sur l'exposition et rencontrer Jean-Luc.
Très bien, écoute, je te remercie Rédis pour cette petite interview.
Merci beaucoup.
Réalisée ici à Château-Gontier, à l'espace Saint-Fiacre. Toujours Château-Gontier, donc à l'espace Saint-Fiacre, pour cette exposition de l'épopée du Deux-Roues. Nous avons Emmanuel.
Bonjour.
Et François.
Bonjour.
Bonjour. Là, vous sortez de l'exposition et je voudrais savoir ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti, votre ressenti.
Déjà, en premier lieu, moi, je suis un peu émerveillée de voir tout ce qui a pu rentrer dans l'espace Saint-Fiacre, parce que nous, on a l'occasion de venir assez souvent. Et on ne pensait pas que tous ces véhicules à deux roues, à quatre roues, pouvaient rentrer dans cet espace-là.
D'accord. François.
Ouais, bah pareil, un peu émerveillé sur le montage qu'ils ont fait avec les décors tout autour et la scénographie. Donc, assez chouette, en tout cas, de découvrir ça, surtout pour que nous, qui sommes pas du tout du monde de la moto. Hein,
oui, alors vous êtes pas moteur.
Pas du tout.
C'est marrant ça.
Pas du tout, mais on a vu que c'était pas forcément axé sur la moto de base.
Oui, alors il y a le vélo, il y a aussi l'évolution du vélo, c'est impressionnant. Hein. Au départ avec la Dresden, au début il n'y avait pas de pédale, et puis après on invente les pédales, la chaîne, et puis pour arriver au vélo en 2026, est-ce qu'on voit, hein, il fallait passer par là pour l'évolution des choses.
C'est ça, puis bah, ayant des enfants, on a aussi leur faire découvrir.
Alors justement, je voulais parler des enfants, est-ce que vous leur expliquez, c'est un peu pédagogique aussi pour les enfants.
Hein. C'était un peu le but de la visite aussi.
Oui, leur montrer qu'à l'époque, les voitures, les motos, les vélos, c'était pas pareil que maintenant.
Non, exactement. Puis on a pu faire du lien parce qu'il y a encore pas longtemps, notre fils utilisait encore une draisienne, donc on a vu qu'il y avait des draisiennes.
Ah oui, parce que les petits, ils n'ont pas de pédales.
Bah non. Et du coup, c'est vrai qu'on a fait du sens en disant que ça existait déjà depuis longtemps.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'expo ?
Bah, encore une fois, je pense que c'est toute la quantité. Ce que je disais à mon mari, j'avais pas l'impression qu'il y avait autant de modèles. Nous qui sommes pas du tout du milieu de la moto, c'est vrai qu'il y a autant de modèles, c'était impressionnant.
De modèles de moto ?
Oui.
De marques, vous voulez dire ?
De marques aussi, oui.
De modèles et de marques aussi.
Ouais.
Et de marques qu'on n'entend plus parler aujourd'hui en plus.
Oui, qui ont disparu, bien sûr.
Peut-être rachetés par d'autres, des gros groupes actuels, mais. Oui. Et chaque fabricant, ouais, on voit bien, ils ont des signes particuliers dans leur fabrication de motos, dans leur décor. Des modèles uniques, hein, on voit bien qu'il y a des modèles qui ont été faits qu'une fois ou deux fois, qui ont très peu servi. Donc, une richesse assez incroyable.
Ouais. Oui, il y a l'endroit aussi, dans cette expo, hein, c'est la tranchée, hein, le petit fortin là, de 14-18. Hein,
ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez déjà visité un peu dans le nord de la France, ou Verdun, tout ça, les vestiges de la guerre 14-18 ?
Non, mais on va souvent en Normandie, parce qu'on a de la famille là-bas, donc on a l'occasion.
C'est pas pareil, c'est pas la même guerre.
Non.
C'est pas la même guerre.
C'est la Deuxième Guerre mondiale.
Il y a eu un peu moins de morts quand même.
Ouais.
C'est ça. Mais non, on n'a pas eu cette occasion-là encore d'aller dans le Nord visiter l'histoire de la Première Guerre mondiale. Donc on repouvoir des parties et comment fonctionnaient les véhicules pour cette guerre-là, c'est vraiment. Vraiment intéressant.
Donc il y a les voitures aussi, vous êtes intéressé un peu aux voitures aussi ?
Bah, surtout à la fin, là, c'est vrai que de voir la 4 chevaux.
Lui, il veut parler.
Oui. Allez, on a vu les voitures de course, effectivement.
Voilà. Très bien. Et donc, les voitures, et puis, on remonte dans le temps. Après, de toute façon, là, il y a la caravane avec la Simca.
Très jolie.
Très jolie aussi.
Ouais. Voilà. C'est les modèles que, vraiment, à l'époque, ils avaient un goût particulier, je pense, pour.
Oui, c'était beau, les voitures.
Ça faisait classe.
Ça faisait classe. Hein,
assez luxueux.
C'est prestigieux.
C'est luxueux, finalement.
Ouais. Oui. C'est vrai que c'est plus du tout de notre temps actuel, mais pour l'époque, c'était vraiment.
D'accord.
Quelque chose d'assez.
Est-ce que vous avez vu le sidecar avec. Alors, ça, c'est récent, hein, il y a quelques 2-3 ans, hein, parce que Brad Pitt est venu au Mans.
Oui, à Montfleur.
Et vous connaissez l'histoire. Hein, il était au Mans là, pour je ne sais plus quelle manifestation. Et on l'a emmené en hélicoptère visiter l'exposition de Jean-Luc. Hein,
oui, on a vu.
Et
ça.
Il est venu le chercher en sidecar. Et le sidecar est présenté dans cette exposition.
On l'a vu avec le cadre, les photos. Là,
qui est acquis, là, oui.
Voilà.
C'est bien que des personnalités aussi comme ça ont pu découvrir l'exposition en Mayenne et le nombre de véhicules exposés.
Oui.
Ouais.
Il y a aussi la moto de Landru. Vous avez connu, vous avez l'histoire de Landru ?
Non, on ne connaît pas.
Landru, c'est Première Guerre mondiale. Hein. Malheureusement, il faisait du charme aux femmes et puis après, il les mettait dans une gazinière. Il les brûlait.
D'accord.
Voilà. Mais au départ, en fait, il voulait construire des motos.
Ouais.
Et il a fait un prototype, elle est là. Le prototype est ici, aujourd'hui, dans l'expo. Vous l'avez vu ?
On nous dit pas seulement, on n'a peut-être pas fait trop attention, mais oui.
Voilà. C'est la moto de Landru.
J'ai vu Landru, mais j'ai pas vu.
Vous n'avez pas vu Landru ? C'est son histoire. Écoutez, je vous remercie que vous ayez rajouté un mot.
Non,
pas forcément. En tout cas, merci à vous pour cette petite interview. Ça nous a fait plaisir de discuter, de raconter un peu l'exposition. Présente sur Château-Gontier actuellement.
Ok, merci François, et puis merci Manuel.
Merci à vous.
Merci. Comment il s'appelle le petit là ?
Raphaël.
Raphaël. Ah ben non, t'es turbulent Raphaël. Hein. Merci à vous.
Merci à vous. Merci.
Voilà, l'émission se termine. Je vous rappelle, l'épopée du Deux Roues, ça dure jusqu'au 1er mars à Château-Gontier sur Mayenne, tous les jours de 10h à 18h. Entrée à partir de 17,50 euros. Passez un bon dimanche et bien sûr, on se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit, sur les ondes de Radio Campus Lille. Merci à vous. Bye. Thank you.